Je te prie, Seigneur, de nous ouvrir les oreilles pour entendre ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des messages comme ça qu'on estime que c'est venu à point nommé, c'est mûr. Parce que ce message que j'aimerais vous partager, je l'avais depuis 4 ans. C'est pour dire que le temps d'incubation. Il y a des fois qu'on reçoit le message, on ne le donne pas de suite, parce que souvent le Seigneur nous parle d'abord à nous. On s'examine pour voir si le message a trouvé son écho dans notre vie, ou elle a trouvé une réalité vécue. Et je crois que ce message a dû faire le tour dans mon cœur et le temps est accompli pour pouvoir le partager. Car le chemin par lequel nous conduit l'Esprit de Dieu nous pousse parfois à aborder certains thèmes. Et celui dont je veux vous parler aujourd'hui, ça concerne la langue. La parole confessée. Elle fait l'objet d'études dans le livre catholique ou les épîtres catholiques de Jacques, dans les groupes de quartier. Et il y a un thème qui est beaucoup plus important que l'apôtre Jacques a abordé, c'est la confession de la langue. Et notre sœur Clémence nous avait parlé la fois dernière de ce que c'est que la confession à partir de Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors je vous invite à écouter ce message comme une interpellation de la part de Dieu. J'insiste dessus parce que ne prenez pas pour une morale, l'un de moi s'en fout. La parole de Dieu traverse toute l'étendue de la vie de l'être humain. Il n'y a jamais un domaine dans notre vie que la parole de Dieu ne puisse apporter une réponse, même sur le plan politique. Et il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, que l'huile ne quitte pas ta tête, et qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Dans la parole de Dieu, quand on parle de vêtements, on parle de l'homme intérieur. On en revient à parler du cœur. Et la Bible a dit que c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. N'oublions pas ça, mes bien-aimés. Et le Seigneur est en train de traverser son Église par les temps qui courent, qui sont des temps prophétiques. Vous n'avez pas besoin de vous en parler, mais soyons toujours prêts en toutes circonstances. Nous allons lire 2 textes. Ne laissez aucune parole ou mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. L'Église de Christ aujourd'hui est beaucoup influencée par les psychologies humaines. Elle a donc grand besoin de retourner à la Bible et surtout à l'esprit des Écritures, c'est-à-dire croire et se conformer aux enseignements du Christ. En tant que ministre de la Parole, nous plaidons pour un retour à un effort individuel et ensuite collectif, pour que nous puissions voir Dieu se manifester dans notre vie, voir sa grandeur. On ne peut pas simplement voir Dieu qu'à l'avènement du Christ. C'est maintenant que nous devons relever le défi. Parce qu'après, quand Christ serait venu, toutes les paroles qui nous ont été dites ne seront plus valables, parce que le parfait serait déjà venu. Nous pouvons donc affirmer que l'Évangile possède une énorme puissance, celle qui consiste à informer d'abord l'être humain sur sa condition de pécheur, à le réformer, et dans ce sens-là, je l'attends, à le faire mourir. Parce que l'homme ne peut pas être amélioré, il faut qu'il meure et qu'il ressuscite. Si vous allez sur le site, vous allez trouver un message. Mourir en Jésus et ressusciter en Christ, ce n'est pas pareil. Et ce message consiste à nous transformer. Pourquoi ? Pour nous faire entrer dans le plan de Dieu. Par voie de conséquence, le but suprême recherché des enfants de Dieu aujourd'hui ne devrait pas être la puissance sur les démons, même si c'est nécessaire, ni la capacité à prêcher, même si c'est parfois indispensable. Ce n'est ni les dons des miracles, ni des guérisons, ni la renommée. Toutes ces choses sont nécessaires et bonnes, mais elles ne rendent pas parfait celui qui les pratique. Vous conviendrez avec moi. Parce que Jésus dira, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité, lorsque les gens diront, mais Seigneur, ce n'est pas en ton nom que nous avons prêché. Ce n'est pas en ton nom que nous avons chassé les démons. C'est pour dire que toutes ces choses pratiques ne rendent pas l'homme parfait. Elles sont essentielles, certes, mais pas tout à fait. En revanche, la plus importante chose que Dieu nous demande est de cultiver la pureté. Bien entendu, la pureté du cœur, de l'âme, et de l'esprit qui fait l'homme. C'est la vertu cardinale de ceux qui habitent dans le royaume de la vérité. Ainsi, une langue bien maîtrisée, c'est-à-dire dire les paroles de justice, les confesser, comme nous l'avons vu, homologuer, dire exactement ce que Dieu dit en public, c'est la vertu cardinale que Dieu nous demande. Une langue bien maîtrisée. Ce serait également le signe de notre maturité. Et si nous le faisons, nous pouvons accomplir comme il faut la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Nous devons maîtriser les paroles qui franchissent nos lèvres. Alors nous allons lire Jacques chapitre 3, verset 3. Le suivant, tu peux laisser comme ça, je peux lire Jacques. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que beaucoup de vents, non, que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu sur le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Vous trouverez dans cette prédication la clé de beaucoup de situations que nous vivons. Nous allons voir que le chemin de notre croissance va s'ouvrir. Il y a des situations dont nous souffrons, et lorsque nous mettons cette parole dedans en application, vous allez voir que ça va disparaître comme par enchantement, parce que nous aurons obéi à cette parole. C'est dire que vous allez voir l'étendue des dégâts qu'une parole mal dite peut apporter dans la vie d'une personne, autant une parole bien dite peut dégager le ciel de notre vie et libérer la route sur notre chemin et nous délivrer de beaucoup de situations. Ne décrochez pas, suivez. La langue ici est comparée comme un petit membre, est comparée comme un mors de cheval, à un gouvernail de navire, ou à un feu, ou bien plus encore. La langue est comparée à un monde d'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que beaucoup ont une âme sensible. Tuer un animal nous fera du mal. Faire du mal à quelqu'un, on ne peut pas le faire, parce que nous en sommes très sensibles. Et je ne peux pas parler de péchés grossiers. On ne le commettra pas. C'est bien. Mais sauf si nous ne maîtrisons pas notre langue, nous commettons tous ces péchés. Le monde d'iniquité. Nous pouvons ne pas commettre les péchés grossiers, mais si nous ne maîtrisons pas notre langue, tous les péchés du monde sont en nous. Vous comprenez ça? Ça, c'est important. Je vous en supplie, comprenez ça. Ça va débloquer beaucoup de situations dans l'Église de Christ. Ça fait beaucoup pour un petit membre, n'est-ce pas? Les dégâts qu'il peut causer dépassent ceux des 7 péchés capitaux que nous connaissons. Lesquels ces péchés capitaux? Colère, avarice, envie, orgueil, gourmandise, paresse, luxure. Souvent, on nous parle des péchés capitaux, mais on oublie de parler du péché de la langue, qui occasionne énormément de dégâts, non seulement dans sa propre vie à soi, mais dans la vie des autres. Ces expressions fortes, il est vrai, mais combien justes. Elles émanent de Dieu lui-même, et leur portée n'est nullement exagérée, en raison de l'étendue des dégâts qu'une langue mal placée peut causer dans la vie. Pour les justifier, il suffit de penser à un tel innocent, ruiné, à qui un faux témoignage a apporté du déshonneur et qui l'a conduit parfois à des moments à se ôter la vie. Je me souviens dans une année où un premier ministre français avait été accusé à tort, mais pour s'être défendu corps et âme et qu'on n'a pas voulu le comprendre, il a trouvé mieux de se donner la vie, comme ça au moins l'affaire était réglée. Voyez-vous, là où ça peut arriver. Pensez à une telle femme, couverte du mépris de la société par la calomnie, à un tel homme trop confiant, mais dupé par le mensonge de l'autre, ou alors à des enfants scandalisés par des propos, parfois malsains, des adultes. Voyez-vous? Mais sans aller puiser les preuves dans les fautes graves, et en demeurant dans le cercle d'observation que nous fournit notre propre expérience, nous n'aurons que trop d'occasions de reconnaître que de nos paroles légères, de nos propos inconsidérés, des fois nos simples plaisanteries, de nos petites médisances peuvent sortir bien des choses affligeantes pour des frères et des sœurs et leur causer bien des chagrins et des dommages. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 29 dit ceci. Ne laissons aucune parole mauvaise ou mauvaise parole franchir vos lèvres, car la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elle aurait produits, c'est-à-dire les conséquences par rapport à Dieu, sur soi et sur les autres. Alors ici, le mot « mauvaise parole » veut signifier des paroles corrompues. Ça a une idée de ce qui est infect, faisandé, comme une viande pourrie ou une pomme pourrie. C'est dans ce sens-là que la Bible veut le dire. Et nous qui sommes de la pureté, nous ne devons pas admettre que des paroles malsaines franchissent nos lèvres, parce que Dieu nous en demandera des comptes. Alors nous allons voir les méfaits. Là, nous avons vu les métaphores qui se rapportent à la langue. Maintenant, nous allons voir les méfaits des mauvaises paroles ou d'une mauvaise confession. Ici, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens, des hommes qui sont versés dans une théologie, connaissent la parole de Dieu sur le bout des doigts. Mais Jésus va s'adresser à eux. Race de vipères. Il n'y a pas de race. Plusieurs races. Il n'y en a qu'une. Non, plutôt deux. Race de vipères et la race de nos vipères, la race de la pureté. Ce serait long à le développer aujourd'hui, mais c'est Jésus qui parle. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire ses mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous l'avez perdu de vue ou vous l'avez présente à l'esprit? Dieu dit que les paroles qui sortent de notre bouche, là, sont enregistrées par les anges. Le jour du jugement de l'Église, toutes ces paroles vont sortir. C'est dire que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras... Ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre, ici, là. C'est comme si je bois de la cyanure et j'espère que l'autre meurt à ma place. Non. Nous allons vivre les conséquences des paroles qui sortent de notre bouche. C'est dire que chaque parole sortant de nos bouches sont sous-pesées par les anges pour voir si elles sont conformes à ce que Dieu nous a enseigné. Alors, permettez-moi d'appeler, ajouter quelques commentaires que je n'ai pas prévus et que ce matin nous avons partagé avec les enfants. Quand un enfant naît dans une famille en France, pour qu'il puisse communiquer avec ses parents, quelle langue doit-on lui apprendre pour qu'il puisse être en société? Le français? S'il est né en Californie, on va lui apprendre l'anglais pour qu'il puisse communiquer avec son entourage et se faire comprendre et comprendre les autres. S'il est né en Chine, si vous l'apprenez le français, il va être en déconnexion avec les Chinois. Il faut qu'il apprenne le mandarin et le code de langage pour qu'il puisse communiquer. Avant de connaître le Seigneur, nous faisons partie du système de ce monde qui nous a enseigné une manière de parler, un code de conduite qui est presque à l'opposé de ce que la Bible nous enseigne. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, né de nouveau, il nous faut apprendre le langage du royaume auquel on appartient. À quel royaume appartenons-nous? Quel est notre royaume? N'est-ce pas le royaume de la lumière? Celui de la vérité? N'est-ce pas le royaume de la sainteté et de la justice? N'est-ce pas le royaume de la création? Parce que c'est par cette parole qui a été prononcée que Jésus a créé toutes choses et que Dieu a créé toutes choses. Le premier péché qui a été commis, ou d'abord, l'élément le plus important de la création qui a été attaqué, c'est quoi? C'est la parole, dans le jardin d'Éden. C'est la parole qui a été attaquée. Et quand on devient enfant de Dieu, on doit confesser, c'est-à-dire dire exactement ce que Dieu dit, dire la parole de Dieu. Clémence nous a enseigné le terme homologuer. Parler publiquement, ouvertement. Dire exactement ce que Dieu dit. Faire de la parole de Dieu ma parole. Et que ma parole soit alliée sur la parole de Dieu. Tel est le cas dans notre vie, à chacun de s'examiner. L'analyse de ce verset, du passage dit par Jésus, nous informe qu'il y a un lien direct entre le cœur, centre de notre spiritualité, et la bouche par laquelle nous verbalisons ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Il y a un lien. Mais quand on rend fine cette analyse, on s'aperçoit sans se tromper que ce qui est dans le cœur vient de ce que l'on entend par voie d'écoute. N'est-ce pas? Par l'écoute, nous absorbons tout. Par l'écoute, notre subconscient entre en contact avec des paroles, soit saines, soit des paroles malsaines. Le subconscient les enregistre, les traite comme des graines mises en terre. Il va créer alors et installer en nous une sorte de logiciel qu'on appelle le chemin de pensée. C'est pourquoi les idées qui sont dans notre tête nous conduisent à une pensée. Et si c'est une bonne pensée, elle nous conduit à une bonne action. Si c'est une bonne action, elle nous conduit à une bonne habitude. Et si c'est une bonne habitude, elle définit notre caractère. Et si tout cela prend sa source dans la parole de Dieu, elle dessine notre destinée en Christ. Par la parole, notre destinée peut être bonne comme elle peut être pire. Et ce sont les schémas de pensée qui conditionnent nos réflexes, c'est-à-dire l'automatisme mental que nous avons. Quand une telle situation arrive, je réagis de cette manière. C'est là. Il influence nos sens de valeur et nos jugements. Donc, le triptyque écoute, cœur, bouche détermine notre degré de pureté. Car ce que j'entends, c'est ce que j'enregistre. Et ce dont je suis rempli, et c'est celui-là qui sort. Et quand j'entends de bonnes paroles, j'enregistre de bonnes paroles. Et remplis mon cœur, et par cette parole, elle sort par ma bouche. Et je confesse la pureté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais ce qui en... On se voit là. Moi, j'ai été quelqu'un qui développe beaucoup l'esprit de critique. Je dis l'esprit de critique. Parce que je fais la différence entre un esprit critique, qui est synonyme du discernement, à l'esprit de critique, qui regarde tout à détricoter. C'est systématique. Et je l'ai piqué par mon prof de philo qui nous enseignait la philosophie. Il faut avoir un esprit critique. On a mal compris, on dit que c'est l'esprit de critique. Alors, tout ce qui passe devant nous, on le passe au crible. Très dangereux. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous enseigne. Même les plaisanteries, parfois, à la limite. Dieu n'est pas plaisantin. Montre-moi un texte dans la parole de Dieu où Dieu a plaisanté. Je sais que Dieu, parfois, il fait de l'humour. Mais des plaisanteries, jamais. Dieu ne plaisante pas. Vous voyez très bien que si on est maître de notre parole, on pourra en être esclave également. Et chez nous, en Centrafrique, il est dit, on reste maître de ce qu'on dit, on ne dit pas. On reste maître de ce qu'on ne dit pas. Mais on est esclave de ce qu'on n'aurait jamais dû dire. Car celui qui veille sur sa bouche, veille sur sa langue, il préserve son âme des angoisses. Vous voyez la dépression ? L'angoisse ici, c'est la dépression. David là, le compare à des abysses, à des fosses. C'est qu'une langue mal orientée peut être le canal par lequel nous pouvons développer une dépression mentale. Pas forcément tout le temps, parce que parfois c'est lié à notre corps. Mais je peux pousser la réflexion même beaucoup plus loin. Comment, qu'est-ce que notre ADN entend ? Qu'entend nos cellules du corps ? C'est des vibrations, c'est des fréquences. Les paroles que nous citons, la Bible a dit à Josué que la parole, cette parole de loi ne quitte pas ta bouche. Pourquoi il parle de bouche ? Médite-le nuit et jour, il ne quitte pas ta bouche. C'est que quand on dit la parole de Dieu, homologuée, on crée une sorte de vibration. Un son. Et la Bible appelle ça des cantiques. Vous commencerez à danser à l'air de Heindel. Vous commencerez à danser quand c'est Mozart qui joue. Mais lorsqu'il y a un chant qui n'est pas harmonieux, vous ne danserez pas. Et toutes les paroles qui sortent de notre bouche, que nous avons enregistrées de la part de Dieu, elles ressortent comme une forme de vibration et nous alignent sur la pensée de Dieu et nous font rentrer en contact avec les choses de Dieu. Mais pourquoi est-il difficile ? De vivre la parole de Dieu dans notre quotidien. D'abord, vous savez qu'une mauvaise langue ou une langue mal placée attire les mauvaises compagnies. Nous met parfois en relation avec des gens compromettants parce qu'on retrouve un dénominateur commun, parler mal. Une mauvaise langue fait de nous des proies faciles aux mauvais esprits qui s'attachent à nous. Ce n'est pas ce que tu dis une seule fois qui déclencherait l'activité des mauvais esprits. Mais si tu prends l'habitude de le dire fréquemment, il y a un esprit mauvais qui s'installe et qui développe en vous ce réflexe de dire des mauvaises choses sans réfléchir. Et nous avons besoin d'être délivrés de tout ça. Une langue mal placée expose nos santé. Et ça, ce sont les conséquences de la parole par rapport à notre vie, ça. Mais qu'en est-il par rapport à Dieu ? Point 2. les conséquences par rapport à Dieu. Alors pourquoi est-il difficile de vivre la réalité de la parole de Dieu dans notre quotidien? Parce que simplement notre bouche s'attache à des mauvaises confessions. Simplement notre parole n'est pas alignée sur celle de Dieu. Nous ne faisons pas notre parole à nous, les paroles du Seigneur. Nous proclamons parfois des choses que le Seigneur ne nous demande pas de proclamer. Et nous faisons de notre langue une lance-flamme. Une lance-flamme, c'est une arme de destruction massive. Soit elle est utilisée contre le camp de l'ennemi, c'est une bonne chose, soit elle est utilisée contre nous-mêmes. Si elle est mal placée. Une langue mal domptée incendie la santé. Elle détruit nos relations. Elle nous éloigne de Dieu de grâce et de ses bénédictions. Elle nous place dans un environnement loin de celui de la joie, loin de celui de la paix, loin de celui de l'assurance. Elle nous place dans une situation qui est loin de l'amour voulu par le Père. Elle détériore certains aspects de notre vie et crée un déséquilibre dans l'existence. Une langue mauvaise empêche le bonheur et la grâce de Dieu d'accompagner notre vie. Dans Psaume 23, verset 6, il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Mais lorsqu'une langue n'est pas bien placée, toute cette bénédiction ne nous accompagne pas. On vit dans une illusion d'être dans la présence du Seigneur, mais la main de Dieu n'est plus avec nous. La protection du Seigneur nous a enlevés, sans que nous le sachions. C'est pourquoi la parole nous exhorte à bien parler. Surtout à ne pas maudire, même pas nos ennemis, même pas nos ennemis, à ne pas critiquer. Alors je reviens à ne pas maudire, même pas nos ennemis. Vous savez pourquoi? Il y a une loi qui fonctionne dans le monde spirituel qui est la loi de la semaille et de la moisson. C'est-à-dire, je moissonne ce que je... Ah, je sème. C'est pour nous protéger contre nous-mêmes que Jésus a dit ne pas maudire, même pas vos ennemis. Laissez-moi m'en occuper. Parce que si vous dites quelque chose de mauvais, vous semez déjà. Mais vous comprenez très bien que quand on sème une graine, on ne récolte pas une graine. On récolte au minimum 30, 60 ou 100. Et Osée va le dire. Le prophète Osée va dire, j'ai semé le vent et j'ai récolté quoi? La tempête. Ça, c'est la parole, ça. Même si elle s'applique dans d'autres domaines de notre vie. Si tu sèmes les critiques, ne sois pas étonné qu'on te passe au crible. Et si on est dans une telle disposition, notre prière n'est pas écoutée du Seigneur. C'est si simple que ça. Psaume 66, verset 18. Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exauce pas. Ah oui. Dieu n'entend pas des prières de ce genre-là. Bien au contraire. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Maintenant, que faire? D'abord, nous devrions trouver une parole. Les paroles mauvaises, aussi repoussantes, comme je l'ai dit, comme une viande avariée. Éviter les plaisanteries graveleuses, parfois double sens. Les histoires salaces, des grossièretés ne devraient même pas franchir les portes de nos lèvres. Et le psalmiste crie au secours. Ça, c'est David, ça. Que ma bouche, ô Éternel, soit sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. Pourquoi? Parce que seul le Seigneur est assez fort pour contrôler nos lèvres et nous garder de nous souiller par nos propres paroles. Bien sûr que la langue ne fait que manifester ce qui est dans le cœur. Car une bouche qui émet des grossièretés révèle un cœur rempli de grossièretés, c'est-à-dire le mauvais trésor. C'est dire qu'il n'est pas encore suffisamment rempli par l'Esprit du Seigneur, par la parole de Dieu. Un cœur vide, parce que la nature a des choses vides. À horreur des choses vides. Et quand notre cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, mais il va être rempli d'autre chose. Si notre cœur est rempli de mauvaises paroles, ben c'est que notre cœur également n'a pas été touché par la parole de Dieu qui doit nous habiter. C'est ce que Jésus dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est par la parole de Dieu que nous entendons, dont nous nous repaissons, que notre cœur va être purifié et que les paroles de notre bouche peuvent communiquer la parole de grâce. Et j'en termine avec les trois points qui ont été abordés. Premièrement, dire les bonnes paroles. Tout ce que nous disons doit être approprié selon le besoin. Je dis selon le besoin. Parce que tout ce que nous disons, parfois, n'est pas approprié aux besoins du moment. Ce que nous disons devait être en direction de la bonne personne, au bon moment, avec les bonnes dispositions. Une bonne parole dite à la mauvaise personne, elle va revenir contre vous pour vous détruire. Mais une bonne parole dite à la bonne personne, au bon moment, c'est ce que la Bible dit. Savoir donner la réponse à une source de joie et combien est agréable une parole dite à propos. Elle est comme des pommes d'or avec des ciselures d'argent. Ainsi, une parole dite à propos, au bon moment, à la bonne personne. Ça lui fait du bien. Ça l'encourage. Même si c'est une parole qui corrige, mais qui se dit avec bonne disposition d'esprit, elle est recevable. Deuxièmement, dire des paroles qui aident les autres à grandir. Oh, l'Église de Christ en a vraiment besoin. Les paroles sortant de la bouche des chrétiens. Et savez-vous que chacun d'entre nous est un canal par lequel Dieu utilise. Canal de parole, canal d'expression d'amour, canal d'empathie. Dieu nous aime au travers les uns et les autres. N'attendez pas que Dieu, c'est pas un ange qui viendra. Quand Dieu veut manifester son amour à votre égard, il choisira quelqu'un qui est plus proche de vous. Votre frère, votre voisin. C'est pour qu'il est indispensable d'être à très bon terme avec tout le monde. C'est les canaux de bénédiction. Et ça, Dieu nous le demande. Tout comme la grâce caractérise, j'en suis où? Dire les paroles qui aident les autres à grandir. Les paroles sortant de la bouche des chrétiens doivent servir à édifier, c'est-à-dire des paroles constructives. « Ah là, tu es tombé, mais ce n'est pas grave. Relève-toi, Dieu te soutiendra. Là, tu as eu un échec, bon, c'est momentané. L'échec n'est pas la fin des choses, ce n'est qu'une transition. Relève-le, dire des bonnes paroles. Parfois, nos enfants se détruisent à cause des paroles que nous leur disons. « Ah, toi, tu n'es bon à rien. Ah, je savais très bien que tu n'es qu'un idiot. Dites ça, vous détruisez l'enfant. Vous le détruisez complètement. Il n'a plus confiance en lui. » Dire des paroles encourageantes, instructives, des paroles inspirantes qui poussent à la louange à Dieu. Et souvent, nous n'avons pas les courage, je vous le dis franchement. On n'a pas le courage, on n'a pas envie de louer Dieu parce que nous savons que ce que nous avons dit par le passé, l'ennemi vient nous dire que toi, tu vas ouvrir ta bouche pour louer Dieu avec tout ce que tu as dit là. Après, tout le monde doit te taire. Et c'est à Jésus que la louange a été volée. L'adoration revient au Seigneur. Parce que tout cela, c'est lié à l'adoration. Hein. La bonne parole, c'est l'adoration. C'est la louange à Dieu. Des paroles qui corrigent, mais dans le bon esprit. Dernière, troisièmement, que dit Éphésiens 4, 29? En troisième lieu, ce qui sort de notre bouche en tant que chrétien doit communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Wow. Tout comme la grâce caractérise Dieu, la grâce devrait caractériser les enfants de Dieu que nous sommes devenus. Nous avons été sauvés par grâce. Et nous sommes gardés par la grâce. Nous devrions vivre et parler avec grâce. Jésus, notre modèle, a été caractérisé par la grâce. Et de lui, le prophète Ésaïe a dit cette belle parole. Le Seigneur éternel m'a donné une langue de disciple, attentif que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille. Matin et après-midi, afin que je l'écoute comme un disciple. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain qui décrit tes merveilles, dit le psalmiste. Voyez l'usage de la langue. Notre relation avec Jésus-Christ est comme n'importe quelle autre relation. Ah oui, elle doit être entretenue. Aucune relation n'est inaltérable si on ne veille pas dessus. Et en matière de la langue, soit nous nous éloignons de Dieu, ou soit par notre langue, nous nous rapprochons de lui. Et si nous nous éloignons de lui, vous savez ce que ça signifie. Donc il est bon pour nous de nous rapprocher du Seigneur. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas rester statique. On est toujours en perpétuel mouvement. On ne peut pas être dire qu'on est devenu chrétien et c'est tout. Non, on travaille à notre salut. Je fais la différence, travailler pour le salut. Travailler à notre salut. Pour le salut, Jésus a déjà fait le boulot. Mais travailler à notre salut, c'est à nous de perfectionner, de cultiver. C'est pourquoi la vie chrétienne est toujours comparée à l'agriculture. Et l'agriculture, c'est l'art de faire développer une bonne plante dans un environnement hostile. Et nous, en tant que chrétiens hostiles, le monde est hostile à nous, il faut que nous poussions. Et donc, il nous faut faire des choix. Parfois, dans notre marche, on est obligé de se couper de certaines relations. Il y a des amis dont nous devons nous séparer. Il y a des personnes qui ne contribuent pas à accomplir notre destin avec lequel il faut couper les liens. Ah oui, parfois. Et il y en a d'autres que Dieu va associer pour vous aider à accomplir ce que Dieu a voulu pour vous. Et si notre relation avec le Christ n'est pas entretenue, il se refroidit. Nous connaissons tous des chrétiens qui, au début de leur début de la vie chrétienne, tout flamme, tout feu, mais qui se sont éteints comme si ils avaient pris une douche de la part des sapeurs-pompiers. Ils ont chuté. Alors, quelle est notre part? Juste un verset. On parle du dernier, il y a un dernier verset, je ne sais pas si tu l'as ou pas. Jérémie chapitre 15, verset 19 à 20. Oui. Le Seigneur éternel m'a donné une langue. Là, ça, nous l'avons déjà lu. Le tout dernier. Oui. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, déjà, on se rattache par la parole. Je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. N'oubliez pas cette phrase-là, celle-là. Si tu sépares, ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est vous. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme... Et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux, vos amis. Si tu sépares ce qui est vil, qu'est-ce qu'il dit? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est par ta bouche que Dieu va édifier. C'est par ta bouche que Dieu va encourager. C'est par notre bouche que nous allons nous mutuellement nous encourager, nous construire. Je vous garantis. Versez-vous dans cette discipline. Je vous promets, dans quelques mois, notre Église ne sera plus pareille. Je vous invite à la prière. Seigneur, ces paroles sont à notre portée. Si tu nous le dis, c'est que tu peux nous rendre capables. Alors aide chacun d'entre nous, y compris moi-même, parce que cette parole s'adresse à nous tous, moi premièrement. Nous allons nous y employer, juste pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen.